Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Solibox, un podcast destiné à tous les entrepreneurs à la recherche d'inspiration dans un monde en pleine transformation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une entrepreneur féminine. Elle s'appelle Maëlle et elle est cofondatrice de Luni. Je vous laisse découvrir Luni et son histoire et vous retrouve à la fin de cet épisode. A tout de suite. Alors Maëlle, tu es cofondatrice de Luni.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux présenter rapidement ce qu'est Luni et après te présenter toi en tant qu'entrepreneur aussi?
Bien sûr. Alors Luni, c'est une fabrique à histoire pour les enfants dès 3 ans. Le principe est hyper simple. L'enfant vient construire son histoire en choisissant 4 éléments. Le héros, l'univers, le personnage et l'objet. Et ensuite, ça va lui lancer un récit audio. Le but, c'est de l'éloigner un peu des écrans, revenir à du récit audio pour développer son imaginaire. Le projet est né pendant mes études. Donc, du coup, moi, j'ai fait des études de design spécialisées en innovation et interactivité à Strat, qui est une école de design industriel à Sèvres, que j'ai complété ensuite par une formation à l'entrepreneuriat à l'ESCP Europe.
D'accord. Voilà. T'as enchaîné les deux?
J'ai enchaîné les deux, c'est-à-dire que j'ai fait mon master 2 à Strat, mm-hmm. et ensuite j'ai enchaîné la formation à business, à l'entrepreneuriat, à l'ESCP directement.
Et l'idée est née dans la première école ou c'est les deux en fait ensemble qui ont fait que...
L'idée est née pendant la première école, pendant mes études de design. C'est pour ça que j'ai fait ma formation business, entrepreneuriat. Mm-hmm. C'est que l'Uni est à la base mon projet de diplôme. Après l'écriture d'un mémoire sur l'imaginaire, j'ai observé que effectivement l'imaginaire des enfants était ultra bridé par beaucoup de représentations numériques imposées par la télévision, les jeux vidéo, la publicité, j'en passe, les tablettes, les écrans, et que je voulais leur proposer donc du coup un objet ludique qui soit pas contre son temps, mais qui revienne à du récit audio, qui nous fasse un peu nous évader les enfants. Moi, des récits audio, j'en bouffais comme pas possible quand j'étais petite. Et ça faisait déjà quelques temps qu'avec mes associés, on discutait de monter une boîte ensemble. On avait un désir d'entreprendre commun. Et du coup, cette formation à l'entrepreneuriat à l'ESCP, je l'ai fait en complément pour me former plus à la partie business.
D'accord. Alors, tes cofondateurs de Luni, ils étaient dans la même école de design avec toi?
Pas du tout. On est des amis de longue date, ça fait bientôt maintenant 10 ans qu'on se connaît. Et en fait, on se connaît d'amis. On n'a pas du tout les mêmes parcours. On a Eric qui est ingénieur, donc lui qui a fait une école d'ingénieur, Igor qui lui a fait une école de communication marketing et une business school, et Thomas une école de multimédia. Donc en fait on avait 4 profils totalement complémentaires pour pouvoir débuter et même mener le projet à bien, puisque ces quatre profils nous ont permis de commercialiser le produit sans faire appel à beaucoup d'autres corps de métier.
Et donc, l'idée est née de toi d'abord, et puis après tu l'as partagée avec eux.
C'est
et
ça.
Là est née la collaboration. Comment ça s'est fait concrètement sur le temps en fait?
Concrètement, oui. Ça faisait, avant que j'aie même l'idée de l'Uni, ça faisait déjà quelques mois qu'on se réunissait chez moi une fois par semaine pour discuter de monter une boîte ensemble. Et c'est au moment où l'idée de l'Uni est venue. Il y a eu un tel accueil par mon école, par le jury de mon diplôme et par la région Île-de-France à laquelle on l'a présenté, qu'on s'est dit on va se lancer concrètement. C'est ce projet-là qu'il nous faut pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça faisait déjà, avant que l'Uni naisse, ça faisait déjà quelques temps qu'on savait qu'on allait monter une boîte ensemble. Et nous, ça allait juste un projet pour démarrer.
Et combien d'années donc ça a pris?
On a commencé concrètement à travailler sur l'Uni en octobre 2013. C'est à ce moment-là qu'on a eu la subvention de la région Île-de-France de Capdigital pour exposer à Futur en Scène en 2014. Et donc du coup, en juin 2014, on a pu exposer les 10 premiers prototypes fonctionnels à Futur en Scène. Et ces 10 premiers prototypes fonctionnels, on ne les a pas fabriqués tout seuls, on les a fabriqués en coproduction donc avec mon école Strat et avec Le Cube, qui est un centre d'art numérique, qui nous a permis d'obtenir cette subvention, qui nous a aidé à l'obtenir et qui nous a permis de tester dans 6 classes de la région Grand Paris Seine-Ouest, donc dans les classes de primaire, l'Uni, pour concrètement avoir nos premiers bêta-testeurs. Voilà comment on a démarré. Et ensuite, après l'avoir montré à Futur en Scène, on a eu un excellent accueil du public. D'ailleurs, on a eu le grand prix du public, dont on est très fiers. On est parti dans la phase industrielle. Et c'est là que les ennuis ont commencé.
Le plus gros, surtout.
Le plus gros, bien sûr, je vais être concise, mais en fait, aucun d'entre nous ne savait comment ça se passait concrètement de passer du prototype au prototype industriel, à comment on peut passer d'une idée à la production d'un certain volume, sachant qu'on avait étudié le marché et que nous, on avait pour objectif un volume de 20 000 pièces la première année où on allait vendre. Et donc du coup, on a, en fonction des personnes qu'on a rencontrées au salon où on a exposé, parce qu'on a fait énormément de salons, on voulait montrer le produit, le tester, faire des retours, etc. Et d'ailleurs, quand on l'a présenté à Future en Scène en 2014, et alors entre juin 2014 et la rentrée de septembre 2014, pendant l'été, on a fait un redesign du produit et on est passé du prototype qu'on a en bois à la version plastique qu'on connaît aujourd'hui. Et donc du coup, donc, comme je disais, personne, on ne connaissait pas du tout comment industrialiser un produit. On a rencontré des acteurs, dont quelqu'un qui travaillait depuis 20 ans dans l'industrialisation de jouets, qui nous a présenté un bureau d'études hongkongais, puisque après avoir fait une étude de marché sur les bureaux d'études en français, ça nous coûtait trop cher et le produit au final nous coûtait trop cher à fabriquer. Donc on est parti en Chine pour étudier tout ça. Excellent contact avec nos partenaires. Pas dès le début, mais donc ça je vais l'expliquer, c'est la partie un peu compliquée, mais aujourd'hui on en est plutôt satisfait. Et en fait, ce qui a été très compliqué dans ce parcours là c'est que les Chinois, ils ont une manière de travailler qui est différente de la nôtre. C'est pas les mêmes horaires, c'est loin, donc on peut pas venir tout le temps travailler avec eux sur place pour arriver à l'objectif qu'on s'est mis en tête. Et du coup, il fallait faire des allers-retours, c'était fastidieux, c'est des relances tout le temps, c'est une différence, ils ne parlent pas très bien anglais non plus, donc c'est tout ça, ça a mis du temps, et pendant un an et demi, on a un peu trimé à malgré tout arriver au produit qu'on voulait. Et aujourd'hui, à une relation avec nos usines qui sont de très bonnes relations. Mais ça s'est fait dans le temps et ça a été très fastidieux.
Vous avez fait ça pour zéro ? Vous avez un contact chinois qui connaissait des personnes là-bas qui vous ont introduit et qui faisait l'intermédiaire, en fait, la communication ?
C'était donc la personne qui travaillait 20 ans dans le jouet nous a mis en contact avec une personne qui travaillait à Hong Kong dans un bureau d'études qui, lui, nous a présenté les usines. Donc on a effectivement un point de contact. Bon, aujourd'hui, on est en direct avec les usines tout en restant en contact avec ce mec-là. Mais effectivement, on a eu un intermédiaire pendant un moment qui nous a bien facilité les choses, puisque lui nous expliquait, essayait d'être pédagogue avec nous. Enfin, voilà. Ça a été une relation qui s'est construite dans le temps, mais ça a été très long, très dur. Et il faut savoir aussi que ça, c'est un certain coût. Mais ça vaut le coup d'y aller, puisque aujourd'hui on est très satisfait du produit qu'on a entre les mains. Donc, voilà.
Donc maintenant, depuis, vous fonctionnez, vous marchez avec eux. C'est quelque chose qui va se faire sur le long terme, vous allez chercher à évoluer le produit, donc peut-être changer de...
Rajouter des fonctionnalités, tu veux dire réfléchir à une V2? Ouais. On réfléchit à une V2, alors pas tout de suite étant donné qu'on est commercialisé depuis peu. On se concentre plus sur le fait qu'on puisse rajouter des histoires, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit au début, mais dans le produit, il y a déjà 48 histoires que l'enfant peut fabriquer. Et ensuite, s'il le souhaite, s'il veut écouter encore plus d'histoires, on peut brancher l'Uni à l'ordinateur et on a un store qui s'appelle la Lunitech. Ça, à nos utilisateurs, c'est la qualité. C'est là où on se démarque de nos concurrents. C'est vraiment de proposer une qualité de contenu et d'écoute qui soit optimale. À terme, comme notre stratégie, c'est de se positionner en créateur de contenu, on réfléchit à avoir notre propre studio d'enregistrement, notre propre répertoire de comédiens, etc. Et là, d'ailleurs, on recrute un profil éditeur pour s'occuper de toute cette partie-là.
D'accord.
Voilà.
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, notamment par rapport à ton parcours, c'est que tu t'es intéressée justement à cette rencontre pour la créativité des enfants. Pour enfants, ça va être moins de 6 ans, il y a une tranche d'âge ?
3-8.
3-8. Oui. Alors, c'est parce que la créativité est beaucoup plus élevée à ce moment-là, c'est ça ? Et qu'après 8 ans...
Non, c'est vraiment par rapport au produit.
Par rapport au produit.
C'est-à-dire qu'en fait, en dessous de 3 ans, les enfants n'ont pas encore la concentration totale pour écouter un récit audio. Ils ont souvent besoin d'un support visuel, vraiment se concentrer sur un récit audio, c'est un peu compliqué pour un enfant de 3 ans, ils n'ont pas cette concentration. Donc du coup, on se positionne à partir de 3 ans et jusqu'à 8 ans, parce qu'après 8 ans, ils sont plus sur des choses où il faut qu'il y ait plus d'interactivité, faut qu'il y ait plus de fonctionnalités proposées que juste un récit audio où on a une écoute plutôt passive. Après, sur notre contenu, on essaye aussi de proposer du contenu là, d'ici le mois de juin-juillet. On va sortir ce qu'on appelle un pack interactif, où l'enfant va aussi faire des choix pendant qu'il écoute son histoire. Donc il va vraiment être acteur et décider ce qui va se passer. Mais donc du coup, là, on n'est plus sur la tranche haute de notre cible. Sur la tranche basse, on va plutôt essayer de sortir des histoires simples, comme des comptines, enfin on peut imaginer plein de choses, mais vraiment cette tranche d'âge, c'est pas en fonction de la créativité de l'enfant. Alors forcément elle est explosive dans cette tranche d'âge là, mais un enfant a énormément d'imagination, que ça soit à 18 mois, que ça soit à 11 ans.
Et par rapport, alors c'est aussi la partie digitale, parce qu'en fait tu as étudié le problème, c'était en 2013, c'est ça? Comment t'as découvert justement, enfin quand je dis ce problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est seulement maintenant d'ailleurs que la science commence à avoir les répercussions sur notre cerveau, enfin, ça peut être c'est hyper inquiétant. Et notamment les plus petits, parce que les plus petits, tout se met en place.
Exactement.
Et donc, comment. Alors, peut-être déjà parler du problème que tu as remarqué, toi, qui est en fait l'élément clé déclencheur, et ce que tu as pu aussi juger, et trouver cette balance, parce qu'en fait, c'est la balance entre le monde du digital et le monde du jouet, quoi.
Exactement. Vraiment, c'est. Je me suis passionnée d'imaginaire et de tout ce que l'être humain a pu imaginer depuis la nuit des temps. C'est comme ça que débute mon mémoire, c'est comprendre qu'est-ce qui a motivé l'homme à imaginer des religions, des mythes, des légendes, etc. C'est vraiment passionnant, ça a été passionnant comme travail de recherche. Et puis arriver au moment plus concret sur mon travail de designer, à dire ok, aujourd'hui c'est quoi cette place, comment c'est exploité, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai lu beaucoup de choses et je suis allée observer des enfants en situation. Et je peux donner un exemple tout simple. On a demandé à des enfants lors d'un atelier de dessiner un ogre. Et ils nous ont tous dessiné Shrek ou Hulk. Donc du coup, c'était bien la preuve que l'imaginaire aujourd'hui des enfants est bridé. Enfin, un ogre, ça peut être ce que tu veux que ça soit, et c'est pas forcément ce que tu as vu à la télé, ou c'est pas... Voilà. Donc du coup, c'était vraiment de me dire, mais moi, quand j'étais petite, enfin, il y a eu beaucoup d'influences personnelles, forcément, dans le produit, dans le projet, parce que moi, j'en écoutais des récits audio, mais je passais mon temps à jouer et à écouter en fond ce genre des récits audio. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de... Voilà, aujourd'hui, les CD, les cassettes audio, c'est un peu obsolète. On ne les utilise pas trop par nostalgie, mais c'est plus aujourd'hui dans le quotidien. Les MP3, c'est pareil. Du coup, on est beaucoup sur les tablettes. Donc, il y a quand même un écran, même s'il y a des histoires audio qui sont proposées. Qu'est-ce que je peux apporter pour revenir à ce récit audio et que ça soit aussi la propriété de l'enfant? Parce qu'aujourd'hui, les tablettes, c'est quand même l'objet de la famille, des parents avant tout. C'est fragile, c'est lourd, l'enfant n'est pas forcément totalement autonome dessus, il ne peut pas l'utiliser quand il veut. Donc du coup, c'était lui proposer son propre produit. Et cette forme de petite radio, ça vient totalement de mon influence des produits des années 70 que j'adore. Donc ce côté un peu vieux transistor, revisité parce qu'on le remet un peu au niveau moderne, du plastique, des couleurs très très punchy, parce que c'est quand même un jeu pour enfants. Et puis aussi, c'est surtout la propriété de l'enfant. C'est à lui, il l'utilise quand il veut, il est totalement autonome, il n'y a pas d'onde, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est le recharger ponctuellement, avec ou sans le parent. Donc c'est vraiment sa propriété, il peut l'utiliser comme il veut, comme quand nous, on utilisait nos CD et nos cassettes quand on était petit. Voilà. Donc je trouve qu'aujourd'hui, le challenge est plutôt atteint. Et surtout, une utilisation que je n'avais pas forcément pensé au départ, c'est que ça marche hyper bien en transport. Pendant les longs trajets en train ou en voiture, ça permet à l'enfant de se calmer, de mettre un casque, d'écouter ses histoires et de passer un trajet en voiture dans le calme lorsque les parents ont besoin d'un peu souffler, de se concentrer sur la route ou de se reposer aussi à leur tour. Donc voilà toute l'histoire. Exactement. Oui, exactement. Ce qui peut être complémentaire sur certaines choses, mais c'est tout le temps dans l'excès en fait que c'est mauvais. Et donc du coup, ça permet d'avoir un device en plus pour occuper l'enfant et développer son imaginaire.
Parce que c'est vrai que tu, même, enfin, on peut dire nous, on fait partie des rares générations qui ont connu en fait l'avant et l'après.
Exactement.
Et il y a ce côté nostalgique. Ouais, bah, ouais. Moi, je sais qu'aussi, j'ai retrouvé personnellement où ces objets-là, c'est ça, quand j'ai vu Uni, je me suis dit, mais c'est génial, parce que c'est exactement l'objet que j'aurais rêvé. C'est que pour aujourd'hui, il y a un désenchantement, comme tu dis, voilà, on va avoir une imagination qui est bridée. Mais aussi, je pense, alors je ne sais pas si tu as étudié cette partie créativité, c'est-à-dire que ça va avec la productivité, la procrastination.
Oui.
Est-ce que justement cette partie-là aussi, tu avais étudié par rapport au focus des enfants, le fait qu'ils étaient plus focus quand il y avait juste un objet simple et pas un truc trop interactif?
Je ne suis pas allée dans le détail de cette partie-là. Par contre, effectivement, ça a été une des conclusions. Et un des constats, c'était que la créativité aussi est réduite à cause des écrans et que leur proposer des choses tangibles, des choses simples, des choses pas multifonctionnelles. C'est pas parce que... quand un produit propose trop de choses, l'enfant est perdu et il se focus pas assez sur une chose. Et c'est très important pour que l'enfant, pour sa concentration, de pouvoir se concentrer sur quelque chose en particulier. Donc c'est quelque chose dont j'ai pas parler en détail dans mon mémoire, mais que j'ai énoncé et dont j'étais totalement consciente. D'autant plus quand on a fait les tests avec le cube dans les classes de primaire.
Surtout, oui. Mmh. Et il y avait d'autres prototypes que des boîtes. Est-ce que c'est passé par d'autres formes ou la boîte, c'était...
C'est passé par d'autres formes. Mais c'était complémentaire. C'est-à-dire que c'était pas pour tester une autre solution que le produit. Parce que le produit, on avait vraiment validé son usage et son utilité. Mais le cube avait comme projet de faire aussi écrire leurs histoires aux enfants. Et du coup, en parallèle avec le cube, on a développé une application qui permettait aux enfants de construire leurs propres histoires, donc comprendre que dans une histoire, il y a une introduction, un élément perturbateur, des péripéties et une conclusion. Et donc du coup, ils ont choisi leur personnage, leur héros, et ensuite ils ont écrit ces blocs-là d'histoire. Ils se sont même amusés à les mélanger. Cette application-là permettait de structurer l'écriture du récit, de choisir les éléments de structurer, et ensuite de mélanger les différents récits des enfants. Et ça donnait des choses totalement farfelues, et à la fois aussi de temps en temps des choses cohérentes. Donc c'était un travail assez amusant à faire avec eux. Quand on achète l'Uni, dans le packaging, on trouve aujourd'hui donc l'Uni, et un carnet qu'on appelle le carnet à dessin, où il y a 48 pages qui correspondent aux 48 histoires de base de l'Uni. Et en fait, sur chaque autre page, on retrouve les éléments qui constituent l'histoire. Et c'est à l'enfant de dessiner ce qu'il écoute. Donc comme ça, c'est à lui d'imaginer en fait ce qu'il entend. Et ça permet d'être actif pendant qu'il écoute son récit. Donc s'il a envie de s'occuper, et à la fois ça lui permet de développer son imaginaire en faisant marcher comment tu imagines ton dragon, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier objet qu'on a. Et on va imaginer aussi d'autres produits, donc proposer aussi un casque, proposer une sacoche, comme on est aussi beaucoup sur le transporter un peu partout. Donc on est en train de décliner une gamme d'usages qui vont avec le produit. Et on peut imaginer d'autres choses. On a en tête aussi des stickers repositionnables pour personnaliser le produit, pour que l'enfant puisse totalement se l'approprier, parce qu'on est sur un produit un peu neutre, donc pour que customiser. Et on peut avoir plein d'autres idées encore en tête.
Alors, en fait, c'est intéressant parce que c'est parti de ton mémoire et ça crée ton métier en fait d'aujourd'hui. Tu voyais que tu allais le faire ou tu avais fait des stages déjà par rapport justement à la vision de ta carrière en fait dans le design?
C'est une très 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 bonne question. Le design, c'est un métier génial parce que on découvre plein de choses et on s'ennuie jamais parce qu'on fait jamais la même chose. J'ai su que je voulais devenir entrepreneur depuis mon entrée à Strat. Dès ma première année, je savais que mon projet de diplôme, il fallait pas que ça soit un projet qui tombe dans le néant, juste un concept comme ça que je présente. Je voulais absolument le concrétiser. C'est pour ça aussi que je me suis efforcée à pas penser quelque chose de trop prospectif pour pouvoir le sortir rapidement, pour pouvoir rapidement le montrer et l'utiliser. Mais à ce moment-là, j'imaginais pas du tout ce qui m'attendait comme parcours d'entrepreneur. J'ai eu la confirmation de ce que je voulais faire quand j'ai fait mon stage en troisième année chez Sensorit et Microsoft. Donc Sensorit qui est le partenaire design de Microsoft, qui est une start-up qui a été montée par des anciens de Microsoft, qui travaille en partenariat avec Microsoft. Donc j'avais l'avantage de travailler dans une petite structure start-up avec leurs propres projets et aussi avec des projets de Microsoft. Donc, c'était le meilleur stage du monde, sincèrement. Ça a été une aventure incroyable et ça m'a confortée dans l'idée de me dire, bah, ok, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Je veux monter ma boîte, je veux aller dans cette aventure. Par contre, ce que j'imaginais pas encore, c'était qu'aujourd'hui, mon métier de designer, il est dans ma manière de penser, dans le design thinking, dans tout ça, mais concrètement, je ne fais plus de design en soi. Le côté créa exécutif n'existe pratiquement plus aujourd'hui, mais j'en suis totalement ravie, un peu triste de temps en temps, parce que forcément, c'est mes premiers amours, mais je m'ennuie jamais. J'ai appris sur le tas à faire plein d'autres choses, et aujourd'hui, je me retrouve à gérer et à réfléchir à la stratégie d'une boîte. Et la stratégie, je pense que c'est la chose la plus... Et c'est quelque chose de très créatif, donc ça fait quand même appel à la créativité, justement au design. Donc c'est pour moi, c'est un très beau parcours et j'ai hâte de voir ce qui m'attend par la suite.
Parce qu'en fait, quand tu dis que c'est pas le métier que tu avais imaginé, parce qu'en fait, c'est multi-casquette aujourd'hui.
Donc, oui.
T'es obligé de t'adapter... Pour chaque situation, d'être curieux,
exactement.
D'apprendre sur le tas,
exactement.
Et ça, en fait, au final, c'est ta forme de design, quoi.
Exactement, et c'est exactement ça. C'est avec toute mon expérience et tout ce que j'ai appris au fur et à mesure, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un équilibre qui continue à évoluer parce que je continue à apprendre au quotidien, parce que, effectivement, en fonction de chaque situation, on apprend une nouvelle chose. Mais c'est ça qui est génial. Et moi, je m'étais toujours dit pendant mes études, si je pouvais être étudiante toute ma vie, je le ferais, sincèrement. Et en fait, je continue puisque je continue d'apprendre. Et c'est ça qui est vraiment... je m'ennuie pas une seconde et vraiment, c'est ça que je voulais, en fait. Donc,
ça te permet en plus de grandir encore plus que ce que tu aurais... Enfin, on ne grandit pas autant quand on est dans une boîte parce que voilà, y a un certain confort aussi. Là, c'est tellement parfois inconfortable que tu es obligé...
Exactement, exactement. On sort souvent de sa zone de confort. Oui, on est souvent confronté à des choses, à réagir dans l'instant, à trouver des solutions tout de suite. Et c'est aussi hyper challengeant.
Mais alors, par rapport à ton parcours, est-ce que ça va faire combien d'années là ? Parce que c'est depuis 2013 ?
Depuis, le projet a été imaginé en mars 2013, donc ça va faire 4 ans.
4 ans, ouais. Donc 4 ans depuis la graine et aujourd'hui, on va dire la fleur, même
c'est ça.
Le champ presque. est-ce que tu donnerais, si tu pouvais te parler à ton jeune toi d'il n'y a pas 5 ans, mais même je dirais même 7 ans, 8 ans, est-ce que tu lui dirais quelque chose par rapport à ce que tu sais ce qui va genre de moins s'inquiéter ou... t'es sur la bonne voie ou qu'est-ce que tu dirais quelque chose en particulier ?
Fonce. Okay. Je dirais pas de... Je donnerais pas de conseils. Je pense que le fait d'avoir les événements qui sont arrivés au compte-gouttes et des choses de temps en temps catastrophiques, mais non, juste fonce, quoi. Vas-y, c'est sûr, c'est ça. Okay. N'hésite pas.
Génial. Et le travail, un point qui m'intéresse, que pour moi, j'ai rencontré que des entrepreneurs qui étaient donc vraiment indépendants, donc fondateurs.
Ouais.
Là, tu travailles en équipe. Vous êtes 4 en tout ?
On est 4.
Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ces 4 ans, justement ? Le fait de travailler
en équipe,
ouais.
C'est, je pense que c'est la base et c'est à la fois la chose la plus difficile. Ça permet de pouvoir discuter, de prendre du recul, d'avoir tout le temps d'énoncer les choses à voix haute et de pas être tout seul dans son travail. C'est très compliqué et pour moi ça l'entrepreneur se renferme. Donc même si tu crées ta boîte tout seul, il faut parler, il faut aller voir des gens tout le temps. Donc nous on avait cette force là. Qu'on a toujours. On avait aussi une force créative tous ensemble à rebondir sur les idées des uns des autres. Ah oui, ça c'est un bon point que tu as énoncé, mais regarde, je prends un peu de ton point et j'apporte un peu de mon idée et ça a créé ce qu'on a réussi à créer aujourd'hui. Donc ça c'est génial. Et après, bah voilà, on travaille 24/24, limite au début de l'aventure, c'était vraiment ça. On vivait pratiquement ensemble. C'était dans nos appartements. Hein. Donc on a travaillé un an chez Igor et après un an chez moi. On était pratiquement les uns sur les autres H24. Donc du coup, bah forcément, il y a des conflits. Et faut réussir à être assez mature et intelligent pour penser que il faut résoudre ces conflits de manière intelligente. Parce que ce sont nos associés, ce sont des gens avec qui on va travailler pendant longtemps, En plus de ça, nous, on est amis de base, donc on n'a pas envie de détruire tout ça. Et on entend beaucoup trop de start-up qui s'effondrent à cause de l'équipe. Donc nous, on a une grande force, c'est d'avoir une équipe ultra soudée. Et donc, du coup, de réussir aussi à faire face au conflit pour que ça n'explose jamais et que le conflit soit source... au contraire, on apprend, ok, bah là, il y a un truc qui n'a pas marché, donc comment faire pour faire mieux la prochaine fois.
Donc votre secret, c'est un peu la communication. Vraiment, il faut que tout soit dit, il ne faut pas qu'il y ait de non-dit, il ne faut pas qu'il y ait de...
C'est la clé. Ouais. Mais c'est la clé pour tout.
Oui.
Pour tout.
En fait...
Pour tout, c'est la clé, c'est la réponse universelle.
Est-ce que tu as un... Alors, je dis mantra, ou il y en a qui utilisent une citation pour ta philosophie de vie que ce soit en tant que créatrice hein, ou en tant qu'entrepreneur.
Moi, je prône beaucoup la naïveté. Je trouve qu'être naïf, ça permet de voir des choses que peut-être des experts ne voient pas, de pouvoir imaginer des choses qui, au premier abord, on se dit « bah non, c'est pas possible ». Donc la naïveté, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Et sinon, je m'inspire beaucoup de... J'essaye de regarder autour de moi des gens qui peuvent m'inspirer et me porter vers le haut. Et c'est vraiment atteindre... ces gens-là m'inspirent au quotidien pour pouvoir toujours faire mieux et pouvoir me surpasser. Et je citerai mon maître à penser qui est Alexandre Astier, qui n'est pas du tout... dans la branche où on est, mais qui pour moi m'inspire tous les jours et me donne la force de croire en ce que je fais, quoi.
Parfois on aime bien diviser cet aspect privé et entrepreneur qui reste professionnel. Donc justement, ce modèle, ça t'a permis dès le départ de savoir vers où tu allais, et que, parce que j'imagine que comme tout le monde, hein, t'as des gens qui t'ont peut-être dit parfois tu prends un risque ou non c'est pas sécure, ou non tout le monde là où t'étais avant c'était... comment tu as utilisé ces modèles-là et quel aspect ils t'ont apporté en termes de modèle économique ou même juste personnalité.
En fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand je dis que c'est très important de parler de son projet et de faire un maximum d'événements pour pouvoir échanger, ça c'est aussi un point clé du parcours d'entrepreneur. Je pense notamment à tous les événements qu'on a fait, et donc du coup j'aurais pas là, à part Alexandre Assier, mais c'est quelque chose de très très personnel. Si j'enlève le côté vraiment très personnel et le côté plus en tant qu'entrepreneur, les conseils que je pourrais amener, dans les événements qu'on a fait, on a rencontré énormément d'autres entrepreneurs qui étaient soit au même stade que nous, soit avant nous, soit plus avancés, et en discutant avec les différents profils et vraiment tous les gens qu'on a rencontrés, bah voilà, il y en avait qui me faisait tilter. Lui, il a un peps pas possible, il arrive à bien communiquer ses idées. Et en fait, c'est en observant un petit peu qu'on se fait sa propre petite recette, et puis on devient l'entrepreneur qu'on veut devenir, mais grâce aussi à l'échange qu'on peut créer avec les autres. Ensuite, il faut savoir vraiment prendre du recul par rapport à son travail. Il faut effectivement s'appuyer sur ses proches, mais qui comprennent pas forcément tout le temps ce qu'on vit. Ce que je pourrais encore redire, c'est partager ses doutes, ses craintes avec des personnes qui comprennent. C'est aussi important. Et puis les personnes, il y en aura toujours, les personnes qui te disent c'est trop compliqué, tu vas jamais y arriver. Ne fais pas ça. Ah, moi, je ferais plus comme ça. Mais plus de manière à t'apprendre la vie, plus qu'à te donner un conseil, parce qu'il faut toujours écouter les conseils et voilà, prendre les conseils comme ils viennent et après faire la part des choses. Mais il y a toujours des personnes qui vont le faire d'une manière extrêmement négative et plus à essayer de te faire la leçon plus qu'à te donner un conseil. Et bah, moi, ces gens-là, ceux qui me disent que je vais pas y arriver, ils me donnent juste plus envie de leur montrer que je vais y arriver. Et puis je sais que je vais y arriver. Donc, et même si l'objectif premier n'est pas atteint, ça va toujours donner quelque chose qui sera inattendu, mais qui sera aussi quelque chose de nouveau. Donc foncez, les gars.
Ouais, d'où le foncer.
D'où le foncer. Ça donnera toujours quelque chose de bien.
Et justement, par rapport à ces choses, c'est intéressant, sur ton compte, tu récupères un peu à droite à gauche, tu prends ce qui t'apporte quelque chose, et en fait, le reste, tu te dis bon, bah, Non, merci, c'est gentil, mais non, merci, ça m'intéresse.
À chacun, à voilà. Chacun de prendre ce qu'il, en fonction de sa sensibilité, voilà, là, ça me parle. Vraiment, écoutez-vous. C'est, il y a une côté aussi dans l'entrepreneur, une côté d'intuition qui est hyper important. C'est quand il y a quelque chose qui que vous voyez, que ce soit n'importe quoi que vous voyez dans votre vie et qui vous inspire, qui, vous savez, cette petite sensation au ventre qui brûle un petit peu, et ben, vous marquez un temps pour comprendre que là, vous avez été interloqué et que c'est important. Et donc, du coup, allez dans ce sens-là pour toujours maintenir et faire vivre cette partie-là en vous. L'intuition, c'est aussi ultra intéressant. Et du coup, dès que vous avez aussi une intuition plutôt négative sur quelque chose, et ben, écoutez-vous aussi. Écoutez-vous aussi. Et si vous n'êtes pas sûr, parlez-en. Parlez-en. Voilà.
Quand tu dis intuition, tu dirais que l'intuition, ça t'a beaucoup aidé, toi, personnellement, quand dans ta carrière, par rapport à tes décisions, par rapport
toujours.
À... Parce que quand, c'est intéressant, cette sensation de brûlure, parce que on peut avoir cette sensation pour des choses inconfortables.
Ouais.
Et il y en a, et ça a l'air très très bien, on dit, oh, j'ai bien fait d'y aller, puis on a tous dit, ah, pourtant je le sentais. Comment tu fais la différence entre le mal qui est en train de te dire, n'y va pas, parce que là c'est juste pas le bon endroit, et le bon, justement, la bonne peur, en fait, la peur qui est juste parce que tu sors de ta zone de confort et qu'en fait ça te fait mal. Enfin, si tu as distingué les deux, c'est ça.
Je pense que tu le sens. Je n'aurais pas vraiment de mots à poser sur ça. Tu le sens quand c'est une sensation de crainte ou quand c'est une sensation « Ouais, j'ai envie d'y aller, en fait. »
D'accord,
c'est
d'accord.
Tellement quelque chose de compulsif,
oui.
et de limite animale que
tu réfléchis pas,
que tu réfléchis pas, en fait. Oui. C'est soit dès le départ, c'est « Ouf, là, il y a un truc qui... » Ou alors c'est « Ouais, j'ai envie d'y aller. » Mais et attention, hein, je me suis trompée aussi. Je me suis trompée. Donc, mais je me suis trompée, mais in fine, ça m'a appris des choses. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis foncer, parce que quoi qu'il arrive, ça va vous apprendre quelque chose. Malgré tout, la clé, c'est aussi de discuter. Moi, j'écoute énormément de mon intuition, c'est quelque chose de clé dans mon parcours d'entrepreneur, d'écouter mon intuition. Mais j'ai aussi énormément de chance d'avoir mes associés à côté de moi qui, eux, peuvent ramener un peu de concret et de choses tangibles en disant attention Maëlle, là on va peser le pour et le contre, etc. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins comment dire crédule dans ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que je suis toujours ce côté très impulsif, très intuitif chez moi, mais je sais aussi faire la part des choses et à réfléchir aux conséquences, à penser plus moyen terme que dans l'immédiat.
Mmh. Voilà. Parce que t'as l'expérience.
Parce que j'ai eu l'expérience de savoir de là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Après, il y a toujours une part d'aléatoire.
Mmh,
donc, ça fait partie du diplôme. Ouais.
Donc, on disait tout à l'heure, les gens qui ont donné des feedbacks parfois positifs, parfois négatifs. Quel est le pire conseil que vous avez reçu? C'est le pire.
Oh. Faire une application? Pourquoi vous faites un objet tangible? Pourquoi vous ne faites pas une application? C'est plus simple. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde d'applications. Puis pour votre business model, ce sera plus simple.
Thank you.